Radio Okapi.
Leur sort, du moins pour ce qui est de leur rapatriement et leur réorientation, désormais entre les mains du comité de crise chargé de la supervision des opérations des Congolais en refuge temporaire en Pologne fuyant la guerre. En entame de ce journal, nous vous parlons de ce comité. À l'honneur durant tout ce mois, et ce depuis hier 8 mars, la femme et ses droits, voilà qui fait l'actualité à présent. En cette soirée, Radio Okapi vous fait part des réalités de quelques femmes et des conditions de vie des femmes du Nord Kivu sinistrées de l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Leur survie est un calvaire. Pour mettre un accent sur les droits des femmes, nous recevons en fin de cette édition Madame Grace Ewawa, coordonnatrice du mouvement Inspiration au Kasaï Central. C'est pour parler de la promotion des jeunes filles dans certaines villes de la RDC. Remerciements à toutes les femmes de la RDC qui acceptent de suivre Radio Okapi pour leur information. Fidèles auditeurs, bienvenue et bon après-midi à toutes et à tous. Un comité de crise chargé de superviser les opérations de rapatriement et de réorientation des Congolais en refuge temporaire en Pologne a été institué ce mardi, ici à Kinshasa. C'est à l'issue d'une rencontre entre le ministre d'État en charge du budget et la chargée d'affaires de la RDC en Pologne. Selon Clémentine Chakemba, ils sont au total 516 Congolais, parmi lesquels des étudiants en situation difficile sur le sol polonais qui ont fui la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Des détails avec Jean-Désiré Kanyama.
Selon le ministre d'État en charge du budget, la situation difficile que traversent ces Congolais préoccupe au plus haut niveau le président de la République ainsi que le gouvernement congolais. Raison pour laquelle la chargée d'affaires de la RDC en Pologne a été vite rappelée au pays pour examiner sur place avec les autorités comment apporter des réponses idoines à leurs préoccupations. Sous la supervision du ministère des Affaires étrangères, un comité de crise a été institué ce mardi à Kinshasa afin de faciliter la prise en charge de ces Congolais. La chargée d'affaires de la RDC en Pologne fait le point de l'évolution de la situation sur terrain. Clémentine Chakembo.
Ils sont partis de l'Ukraine pour la Pologne. Il y a une cellule de crise qui va partir de Kinshasa à Varsovie pour gérer cette crise et surtout apporter de l'aide à nos ressortissants congolais se trouvant en Pologne. Le gouvernement s'engage à les prendre en charge.
Aussitôt, une dotation dont le contenu n'a pas été révélé à la presse a été remise à ce comité de crise par le ministre d'État en charge du budget afin de faciliter les premières prises en charge de ces Congolais avant leur rapatriement au pays. La chargée d'affaires de la RDC en Pologne a fait état des 16 autres Congolais bloqués à l'université des Soumis à Kiev en Ukraine. Pour rappel, le gouvernement polonais a donné 30 jours de séjour humanitaire aux ressortissants non européens pour quitter son territoire. Faute de quoi, ils seront expulsés vers leur pays d'origine.
En rapport avec la grève en Ukraine, les Nations Unies ont reçu une notification officielle de la décision du gouvernement ukrainien de retirer son contingent militaire, y compris le personnel, les hélicoptères et l'équipement de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Le contingent comprend environ 250 soldats. Dans une note d'actualité publiée ce mercredi, les Nations Unies disent prendre acte de cette décision et remercient l'Ukraine pour sa solide contribution à la MONUSCO et aux autres opérations de paix. L'impact de ce retrait est en cours d'examen, indiquent les Nations Unies. Actualité en rapport avec la traque contre les milices dans la partie est du pays. À Ituri, 4 personnes ont été tuées mardi pendant des combats entre l'armée et la milice Codeco au quartier Sayo à la périphérie de Mongwalou dans le territoire de Djougou. Selon le bourgmestre de cette commune, l'armée a lancé une offensive contre ce groupe armé après le meurtre mardi matin des 6 militaires dans ce quartier. Cette autorité municipale dénonce la complicité de certains habitants qui profitent à l'ennemi pour déstabiliser la zone. Au Nord Kivu, les femmes sinistrées de l'éruption volcanique du 22 mai dernier, vivant dans le site de Kayembe, situé non loin de la ville de Goma en territoire de Nyiragongo, traversent un calvaire pour la survie de leur famille. Depuis 4 mois, les sinistrés estimés à environ 478 ménages n'ont obtenu aucune assistance. Comment ces femmes font-elles pour faire face au vécu quotidien? Bernardine Diambou nous en parle dans ce reportage.
Dans ce site, les gens dorment très mal, qui manquent de bâches, ils manquent de matelas, ils manquent d'eau, ils manquent aussi à manger.
L'un de ces sinistrés rencontrés témoigne que les femmes qui ont trouvé refuge dans des abris de fortune en mauvais état sont dépourvues presque de tout. Depuis 4 mois qu'elles n'ont reçu aucune assistance venant ni des organisations non gouvernementales et encore moins du gouvernement congolais, suivant ces témoignages.
Lorsque nous allons effectuer des travaux champêtres pour les autres et lorsque nous allons couper du bois de chauffe, c'est alors que nous réalisons un peu d'argent. Il y a des fois aussi, nous faisons la lessive dans les ménages.
Pas magie.
Certaines femmes exercent des petits travaux ménagers à Goma ou un petit commerce pour leur survie. Les plus vulnérables vont chercher du bois, des chauffes dans les parcs. Elles disent être victimes de viols.
Nous sommes violentés lorsque nous allons chercher du bois de chauffe. Nous avons peur. Nous commençons même à utiliser les sacs de ciment pour préparer de la nourriture avec toutes les conséquences. Vraiment, nous souffrons beaucoup, surtout avec les viols. Déjà, il y a 6 cas, dont 3 femmes et 3 filles.
En plus des conditions précaires, plusieurs cas de malnutrition sévère et des maladies hydriques sont notifiés chez les enfants et les personnes âgées. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
À Beni, les femmes réunies dans l'association des dépositaires des bois sciés en ville et territoire se sont réunies ce mercredi pour parler de l'autoprise en charge de la femme et la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une activité organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme qui a eu lieu hier. Marc Marofimbo pour des précisions.
Elles étaient une centaine à se réunir afin de parler de l'autoprise en charge de la femme de Beni et particulièrement celle qui œuvre dans le domaine des dépositions de bois sciés. Pour cette dernière, la femme doit participer à la vie de famille et de la société en étant autonome financièrement. Faiza Mwenge, membre de l'association des dépositeurs des bois sciés de Beni.
Nous avons parlé de l'autoprise à charge de femmes. On a compris qu'il y a trop de femmes qui pensent qu'ils doivent seulement rester à la maison pour préparer aux enfants. Alors, nous nous sommes réunis pour leur parler qu'ils doivent travailler parce que si on prend courage, on ne doit pas échouer de se prendre à charge. Et on doit souvent aider les hommes car il y a souvent des difficultés. Quand on entend seulement c'est papa qui va amener, quelquefois ça complique. Pour améliorer la qualité de notre travail, nous pensons être courageuses pour gagner les paix qui va nous aider au service des enfants.
À cette occasion, ces femmes ont été sensibilisées sur le reboisement afin de lutter contre le réchauffement climatique. Un travail accompli par le réseau des jeunes leaders africains pour la paix et le développement. Notons que ces femmes vont planter des arbres à la fin du mois pour clôturer le mois de la femme. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Dans le territoire de Lupatapata au Kasaï oriental, 2 morts, 9 blessés graves, plusieurs maisons incendiées et le déplacement massif des habitants, c'est le bilan de l'attaque mardi contre le foyer agricole de Luabala dans le secteur de Mukumbi frontalier au territoire de Dimbelenge. Le conflit foncier serait à l'origine de cette énième incursion d'hommes armés en provenance du groupement de Bakwachika, secteur de Lubi. Nous sommes là dans le territoire de Dimbelenge au Kasaï central. Le ministre provincial de l'Intérieur annonce le déploiement de plus de 50 policiers pour établir l'ordre. Des explications avec vous, Esther Dalafina.
Les sources sur place affirment que les policiers du sous-commissariat de Luabala ainsi que les habitants de ce foyer agricole ont été surpris hier mardi par un groupe d'hommes civils et en uniforme armé conduit par un prétendant chef de groupement de Bakwachika au nom de Konji alias Chingeleji en provenance du territoire de Dimbelenge au Kasaï central. La même source affirme que ces hommes ont traversé la rivière Boutoua pour s'emparer des récoltes des habitants du foyer agricole de Luabala. Ils ont attaqué les sous-commissariats et ont tiré plusieurs coups de balles avant d'ériger des barrières pour malmener les habitants. Le bilan provisoire fait état de 2 morts, 9 blessés graves acheminés au centre hospitalier de Chilundé. Des sources concordantes signalent que le village de Luabala vient d'être incendié ce mercredi matin. Depuis hier mardi, tous les habitants de Luabala sont en fuite dans la brousse. Contactés, l'administrateur de territoire intérimaire de Dimbelenge dit attendre le rapport du chef de secteur de Lubi qui est actuellement injoignable au téléphone. Le ministre provincial de l'Intérieur du Kasaï oriental promet de descendre sur le lieu pour s'enquérir de la situation. Denis Kalumbu dit avoir dépêché sur place quelques policiers pour rétablir l'ordre. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
L'actualité nous amène dans la province du Kwilu, où l'on signale une vive tension dans la nuit du mardi à ce mercredi 9 mars dans la ville de Kikwit. À l'origine, 2 groupes de bandits Kuluna qui se battaient et cela a occasionné la mort de l'un d'eux par coup de couteau. Le commandant Siat Urbain de la police de Kikwit, commissaire supérieur principal Odon Kachala, qui livre l'information à Radio Okapi, indique que ces Kuluna ont saccagé la salle d'opération de l'hôpital général de Kikwit, où est allé mourir ce Kuluna qui, selon lui, a été en prison il y a moins de 2 semaines passées. Il appelle la population au calme et à collaborer avec la police pour lutter contre ce phénomène de Kuluna. Le tout dans cette correspondance de Irène Boma.
C'est aux environs des 22h locales d'hier mardi que la tension a commencé précisément au quartier Bongisa dans la commune de Lukolela à Kikwit. Il s'agit de 2 bases de bandits urbains communément appelés Kuluna qui se battaient sauvagement. Dans ces accrochages, un Kuluna s'est blessé gravement et a succombé de ses blessures quelques minutes après, comme explique ici le commandant Siat Urbain de la police de Kikwit. Selon le commissaire supérieur principal Odon Kachala, cette victime était récidiviste.
Les Kuluna se battaient. Alors, les policiers ont intervenu. Il y avait déjà un Kuluna qui était blessé. Juste quand les policiers intervenaient, celui-là qui était blessé, les soins l'ont amené à l'hôpital général. Malheureusement, de là, ils sont mis à saccager l'hôpital. On a trouvé la salle d'op, les vitres cassées. À l'arrivée de la police, nous avons mis la main sur 3 parmi eux. Et 3 motos, ils ont aidé à aller faire cette navire à l'air où je vous parle, les corps de cette victime et à la morgue. Quand vous regardez, le gars qui est mort, on l'appelle, il passe à 30. Il est un chef de gang. Chez Lipassa, il vient de mourir là sur le couteau de ses collègues. Ça fait pas longtemps, il était arrêté à la 11e région militaire. Il n'y a pas 2 semaines, il était en prison. Je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve encore dehors.
À l'heure actuelle, la situation est sous contrôle de la police qui est en train de remettre l'ordre dans la ville à rassurer le colonel Odon Kachala. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans le sud Kivu, à Bukavu, la police nationale congolaise a présenté hier au public un groupe de bandits présumés auteurs de plusieurs cas de meurtre et de pillage enregistrés dans la ville, ses périphéries et sur la route nationale numéro 2 qui relie Bukavu au territoire de Walungu, Mwenga et Shabunda. La population souhaite que la justice militaire au sud Kivu puisse appliquer la loi dans toute sa rigueur. Un reportage de Jean Kassami.
Ces 14 présumés bandits armés font partie d'un réseau de malfrats qui volent, pillent et tuent la population civile au chef-lieu du Sud Kivu et en dehors de la ville sur la route nationale numéro 2. Lors de leur présentation hier au public, ils avaient tous l'air détendus. La plupart arboraient un sourire, sauf l'unique dame au milieu d'eux qui était visiblement anxieuse. Ils étaient sous menottes, avec à leur côté des armes et des tenues aux couleurs des uniformes militaires qu'ils utilisent pendant les opérations. Un membre de la commission défense et sécurité de l'Assemblée provinciale qui a contribué à l'arrestation de ces bandits armés alerte sur l'existence d'un réseau bien organisé dans plusieurs coins du sud Kivu, voire en dehors de la province. Les services de sécurité espèrent que la justice militaire fera correctement son travail après leur présentation au public devant le gouverneur de province. La police les a orientés à l'auditorat militaire de Bukavu. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Avant de passer à la page internationale, l'ambassade du Japon en RDC s'engage à financer la construction et la réhabilitation des 2 écoles publiques. Il s'agit de l'EP4 Lukala située dans le Congo central et de l'Institut Talamaku situé à Kinshasa dans la commune de Lancélé. En vue de formaliser cet engagement, 2 contrats de donation ont été signés cet avant-midi à Kinshasa entre l'ambassadeur du Japon, Nami Hiro, ainsi que les responsables de ces 2 établissements. Reportage de Jean-Francis Mouya.
Dans son allocution, l'ambassadeur du Japon en RDC, Minami Hiro, a notamment rappelé que l'enseignement primaire et secondaire constitue une base pour tout enfant qui veut acquérir des connaissances et des valeurs pour assurer son autonomie, et que ces projets sont des faits indispensables dans la mesure où ils appuient le développement des ressources humaines. Aux yeux des responsables des écoles bénéficiaires, cet acte est d'une grande importance car il permettra à ces établissements de mieux concrétiser la gratuité de l'enseignement de base prôné par le chef de l'État. C'est ce qu'affirme Bachelar Intuku, préfet de l'Institut Talamaku.
Les problèmes que nous rencontrons au niveau des écoles, surtout avec un effectif pléthorique des élèves. Pour concrétiser la gratuité prônée par les chefs de l'État, nous avions demandé l'aide auprès de l'ambassade du Japon en nous construisant un bâtiment de 8 salles de classe, plus un bureau et la réhabilitation de l'ancien bâtiment ainsi que de la latrine. Aujourd'hui, c'était juste la cérémonie de signature de ces dons. Nous sommes vraiment très très reconnaissants du peuple japonais qui a accepté de nous venir en aide. C'est une grande journée pour nous. Vraiment, nous remercions encore une fois le peuple japonais.
Notez que pour ce qui est de l'EP4 Lukala, le montant alloué pour les travaux s'élève à hauteur de 90 180 dollars et 160 813 dollars pour l'Institut Talamaku.
Actualité internationale.
Macky Sall a porté la voix de l'Afrique dans la recherche d'une solution pacifique à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le président en exercice de l'Union africaine s'est entretenu mercredi avec Vladimir Poutine. Le Sénégalais a notamment fait part de la disponibilité du président russe à maintenir le dialogue pour une issue négociée du conflit. En attendant, les armes dictent leur loi. Le 24 février, l'Union africaine avait appelé au respect de la souveraineté nationale de l'Ukraine tout en mettant en avant le rôle primordial du dialogue. L'armée a tué au moins 13 manifestants pacifiques, dont un enfant et des personnes assistant à leurs obsèques fin janvier dans l'est du Tchad à la suite d'un différend entre deux communautés, a accusé mercredi Human Rights Watch, ce que N'Djamena a fermement démenti. Le 24 janvier à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, dans l'est, des Ouaddaïens autochtones avaient manifesté pour protester contre l'investiture dans un lieu traditionnellement réservé à leur sultan d'un élu issu de la communauté arabe, autrefois nomade mais sédentarisé depuis des décennies. L'invité. Dans le cadre du mois de mars dédié à la femme, nous recevons la coordinatrice du mouvement Inspiration au Kassai Central. La structure a lancé une campagne de sélection des jeunes filles dans certaines villes de la RDC. La coordonnatrice de ce mouvement explique que celles qui seront choisies pourront être connectées aux femmes modèles de leur choix à Kinshasa. Grâce Ewawa s'entretient avec François Kadima.
Madame Grâce Ewawa, le mouvement Inspiration s'amène au Kassai Central, précisément Kananga, pour accompagner les jeunes filles pendant ce mois de mars. Dans quel sens ?
Bon, ce que nous pouvons retenir, c'est que le mouvement Inspiration, avec l'appui ou la collaboration du cabinet Synergy Consulting, nous avons pensé aux jeunes filles de la province de Kassai Central et précisément celle de la ville de Kananga. Nous avons eu à mener une série d'activités en rapport avec le mois dédié à la femme, parce qu'on ne peut pas parler de la femme sans penser à la jeune fille. Et nous avons pensé à cette jeune fille que nous avons vraiment remarquée avec tant de potentiel, et voilà, nous avons mené autant d'activités. L'objectif était de sensibiliser, de conscientiser la jeune fille à prendre conscience de ce qu'elle a comme potentiel et de se mettre en avant, au fait, à travers l'autonomisation, afin de jouer un rôle important pour le développement de la RDC.
C'est vrai que chaque mois de mars, on a beaucoup d'activités liées à la femme. Quelle est la valeur ajoutée?
Et ce que le mouvement Inspiration apporte de plus, c'est aider la jeune fille, non seulement à connaître ses potentiels, mais l'aider à arriver jusqu'à exploiter au fait ses potentiels qu'elle a. C'est-à-dire, le plus que nous ajoutons, c'est accompagner cette jeune fille dans sa carrière. Elle a un rêve et nous l'aidons juste à booster ce rêve-là pour la concrétiser. Et à travers nos activités, nous mettons la jeune fille à s'inspirer des femmes qui ont excellé dans un domaine quelconque et l'aider à avoir comme modèle cette femme et cette femme la mentor pour l'aider à arriver jusqu'au bout de ses rêves.
Ces activités sont-elles programmées seulement au Kassai Central ou d'autres provinces sont ciblées?
Pour ce mois de mars, nous avons ciblé Kananga, Kolwezi et à Lubumbashi.
Comment se fait l'accompagnement? Vous montez des équipes sur terrain?
Kananga, on avait prévu un casting au cours duquel nous avons sélectionné deux meilleurs parmi les 60 étudiantes qui ont participé. Et les deux meilleurs là vont aller à Kinshasa. Et ils vont passer toute une semaine de mentoring avec les femmes modèles de leur inspiration, bien sûr, dans les domaines où elles se trouvent. Et elles vont évoluer pendant toute une semaine. Elles vont apprendre de l'expérience de ces femmes. Et ça va pas s'arrêter à apprendre. Elles seront même prises en charge s'il faut donner des bourses d'études pour approfondir leurs études afin qu'elles deviennent vraiment influentes dans la vie des Kananga. Et elles sont pour nous ambassadrices. Elles vont représenter la vie de Kananga et elles vont revenir avec tout ce qu'elles auront à voir là-bas en termes d'expérience, en termes de conseils et des moyens aussi le permettant d'influencer et de se développer ici dans la vie de Kananga.
Il y aura un appui financier après, parce que ce qu'elle doit faire, ça doit s'accompagner avec des moyens.
Exactement, ça va pas s'arrêter à les inspirer des expériences, non. Elles vont bénéficier des moyens, justement, qui les permettront d'avancer petit à petit jusqu'à atteindre leur objectif. Et sera au fur et à mesure suivi leur niveau, comment elles évoluent. Par exemple, parmi les deux, il y a une qui nous a dit qu'elle est déjà entrepreneuse. Elle a monté une petite entreprise de vente de yaourts. Donc, c'est déjà un pas qu'elle a eu à faire. Et l'apport du mouvement Inspiration, non seulement les femmes qui ont réussi dans ces domaines-là vont pouvons pas seulement l'aider avec des conseils, mais comment arriver jusqu'à arriver à devenir plus grand et influente. Donc c'est vraiment ça le suivi. Nous avons jusque là l'appui de Synergie Consulting. Nous lançons appel à nos différents partenaires qui ont déjà compris la vision du mouvement Inspiration et ils nous accompagnent dans nos activités quotidienne en rapport avec ces mentorings.
Madame Grace Ewawa, nous vous disons merci.
Je vous remercie.
Voilà comment se referme cette édition de journal préparée par Élisée Tikota, Martin Sebujangwe et l'ensemble de toute la rédaction. Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté. Nous vous disons sincèrement merci pour votre attention soutenue.